Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder, on va commencer une mini-série sur l'église locale. Donc, on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire redécouvrir l'église locale. On veut vraiment qu'on puisse comprendre, saisir ce que le Seigneur veut nous apprendre aussi à travers aussi ce sujet. Donc, depuis l'automne, on a commencé cette série de redécouvrir. Et on a besoin de peut-être redécouvrir un peu notre foi, Dieu, l'Église avec des yeux neufs. Peut-être des choses qu'on avait oubliées, peut-être des choses qu'on avait peut-être vues d'une façon différente. Ce n'est pas dans le but de croire que ce que nous avions dans le passé n'était pas bon, mais des fois, on oublie. Et voilà pourquoi qu'on a besoin de rafraîchir, on a besoin de redécouvrir de nouveau ce que le Seigneur veut nous dire, avec d'autres lunettes, avec d'autres perspectives aussi, si le Seigneur le désire. La semaine passée, on avait regardé redécouvrir l'Église, le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église avec un grand E, l'ensemble des chrétiens qui sont réunis sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête. Et aujourd'hui, justement, on va commencer une série, puis on va regarder les différents thèmes que nous avons vus la semaine passée pour voir comment est-ce que nous pouvons les mettre aussi en pratique dans notre vie de tous les jours et principalement aussi dans l'Église. Donc, rappelez-vous, la semaine passée, on avait regardé quelques thèmes, vous pouvez nous les noter. On va aussi proposer plusieurs aussi textes bibliques parce qu'on veut on veut redécouvrir aussi la parole de Dieu, mais on veut aller voir toute la richesse que la parole de Dieu nous donne et d'aller aussi dans ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole. Donc, on avait vu la semaine passée que l'Église est un corps avec Jésus qui est la tête, un corps où chacun de nous, on a une fonction. Le bras, la jambe, le cou, etc. Chacun a une fonction particulière. Mais tous ensemble, on est sous le regard de la tête qui est Jésus-Christ, le chef de l'Église, pour que tout soit bien coordonné pour avancer. L'Église est aussi universelle, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous les peuples, quel que soit là où vous allez. Si vous rentrez dans une Église, vous allez vous entendre tout de suite avec ces personnes parce qu'ils adorent Dieu, parce qu'ils louent le Seigneur, parce qu'ils ont vraiment cette conviction aussi d'être sous le regard de Jésus-Christ. Elle est une famille. Elle est une famille dans le sens que on n'est pas simplement juste des individus qui sont mis à gauche, à droite ensemble, mais on crée quelque chose ensemble. Voilà pourquoi qu'on s'appelle des frères et des sœurs. Elle est unie pour marcher ensemble sous le regard de Jésus. L'importance de l'Église, le corps du Christ, c'est d'être justement unie. De pouvoir voir que malgré nos différences de culture, malgré peut-être nos différences de langue, d'interprétation, on est unis sous le regard de Jésus-Christ. Nous sommes tous membres de l'Église. Il n'y en a pas un qui est membre, puis l'autre, il est à côté. Dès que nous acceptons Jésus-Christ dans notre corps, dans notre cœur, nous rentrons dans cette Église, le corps du Christ, tout ensemble, et nous sommes membres de cette famille. Nous développons cette foi dans l'Église. La foi que nous avons, c'est de croire en Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu. Et en allant dans l'Église, en allant être dans l'Église au corps de Christ, on développe cette foi pour mieux en mieux connaître Jésus-Christ et de mieux en mieux aussi agir selon lui. Et tout cela se fait par la présence et l'action du Saint-Esprit. On ne peut rien faire, justement, comme on vient de prier, sans l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide personnellement, chacun de nous, et on a besoin de rester aussi sous le regard de Jésus-Christ et du Saint-Esprit pour pouvoir marcher en tant qu'Église. Et l'Église est locale. L'Église est locale. On n'est pas juste un corps universel ou on pourrait dire spirituel, où chacun, ben, oui, on est frères et sœurs dans la distance, mais on est local. Et on va voir aujourd'hui pourquoi que Jésus-Christ a permis que l'Église soit locale. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une Église locale? Donc, le premier thème que nous allons regarder ce matin, c'est l'Église est une communauté, une famille. Si vous regardez justement un peu l'histoire de l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu avait voulu déjà un peuple. Dès le début, il a donné cette promesse à Abraham. Tu seras le descendant d'une multiple justement communauté, famille, peuple. Et tout au long de l'Ancien Testament, on a vu comment que Dieu a choisi Israël pour pouvoir justement le conduire dans un pays promis, de pouvoir le guider, de pouvoir que par les prophètes, par les juges, par les rois, il puisse continuer à louer, à adorer le nom du Seigneur. Mais nous savons que justement, ce peuple d'Israël, est resté souvent rebelle, n'a pas voulu écouter. Et que voilà que justement, le plan de Dieu était que ce ne soit pas juste le peuple d'Israël qui soit sauvé, mais que c'est l'ensemble. Voilà pourquoi qu'à travers Jésus-Christ, on parle de la nouvelle alliance qui permet que nous sommes cette famille, nous sommes l'Église. Donc, l'Église est la continuité du peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19 qui dit « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. » Par Jésus-Christ, nous avons accès maintenant à la famille de Dieu et on reçoit les privilèges de cette famille, dans le sens que nous sommes appelés des frères et des sœurs en Christ et qu'on agit pour le bien de cette famille, d'entretenir ce lien fort, de le soutenir jour après jour. Et c'est vrai qu'on doit remercier jour après jour de faire partie de cette grande famille du Seigneur. Quel que soit là où nous sommes, justement, on fait partie de cette famille. On peut remercier le Seigneur de nous avoir permis de vivre avec lui. Mais nous sommes aussi une famille, une communauté du côté local. Jésus a voulu que ce corps ou cette famille puisse se réunir localement, c'est-à-dire d'avoir des contacts proches et réguliers. Il ne voulait pas simplement réunir les chrétiens sous l'ensemble du corps du Christ, mais il voulait que les chrétiens puissent se réunir localement, à un certain moment donné, entre les gens, d'avoir des contacts, d'avoir des possibilités de pouvoir s'entraider, se louer le nom du Seigneur ensemble. Donc, le fait d'être membre de ce peuple par le sacrifice de Jésus-Christ nous donne le droit d'être appelés ses enfants. C'est-à-dire qu'on est des fils et des filles du Père céleste. Donc, en étant membre de ce peuple, Dieu désire vraiment nous rassembler ensemble pour que nous formons justement l'Église, le corps du Christ. Alors, comment faisons-nous pour mettre justement en pratique ce qu'est l'Église, le corps du Christ? Et justement, on se réunit comme ce matin, non pas comme pour se rassembler comme un groupe, une association sportive, pour avoir du bon temps ensemble, pour vivre des temps de fraternité, mais dans un but précis. Être l'Église du Seigneur demande une direction et une vision qui soit très claire. On se rassemble, oui, c'est vrai, pour vivre des temps de fraternité, mais on se rassemble pour principalement pour louer, adorer Dieu, pour pouvoir être cette communauté qui continue de représenter le Seigneur. Alors, ce que nous sommes en tant qu'Église, prochain dia, ouvrons notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, qui nous donne un aperçu de ce que est l'Église, de ce que est l'Église locale. Qu'est-ce que Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, a enseigné à ses apôtres pour que nous puissions vivre cela. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, qui dit, « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous sommes ce peuple, que nous avons maintenant l'occasion de vivre cette grâce de Dieu et de pouvoir l'expérimenter à travers l'Église. Alors regardons justement, parce que dans ce texte de ces deux versets, principalement le verset 9, on voit plusieurs bouts de phrases. On voit le premier, on est une race élue, mais vous êtes une race élue. Quand dans l'Ancien Testament, ou même quand les Juifs, quand Pierre parlait des races, pour les Juifs c'était très important. Ils étaient très fiers de la descendance. On se rappelle comment dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, on voit toute la généalogie des gens. Les gens s'identifier à leur descendance. Nous sommes maintenant, faisons partie de la race élue, c'est-à-dire de la race privilégiée d'appartenir à notre Seigneur. Nous sommes élus, c'est-à-dire qu'on est choisi par Dieu. Non pas comme une élection fédérale ou provinciale où il y a plusieurs candidats, puis il y en a un seul qui est élu. Non, nous sommes tous élus. C'est-à-dire que Dieu nous a tous choisis pour faire partie de cette race, de cette descendance spéciale. Et pourquoi que Dieu nous a choisis? Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est simplement que dans sa grande grâce, il a voulu nous donner la vie. Il a voulu nous donner la vie en abondance. Et voilà pourquoi que justement il dit dans la deuxième partie du verset 10, vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu. Donc, il parle à nous. Nous, on n'était pas du peuple de juif, du peuple d'Israël. Donc, on n'avait pas ce regard de bienveillance de la part de Dieu. Vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Vous êtes à maintenant l'objet de sa grâce. On voit tout aujourd'hui comment que Dieu nous a donné cette grâce, cette possibilité de faire partie de cette communauté, de cette famille. Cette grâce est accordée à chacun de nous. Tous ceux qui veulent faire partie de cette race élue le font partie. Le Seigneur a permis que nous soyons cette race élue, non pas juste avoir le titre, mais d'avoir la fonction qui va avec ce titre. C'est-à-dire que lorsqu'on est cette race élue, on doit démontrer à Dieu comment que ce privilège de faire partie de cette famille. Quelle est la conséquence de notre vie, de tous les jours, de notre vie personnelle, ainsi l'impact qu'on peut avoir aussi sur les autres. Dans le deuxième bout de phrase, il est dit une communauté de rois-prêtres. Selon les versants, des fois, c'est une communauté de prêtres-rois, mais on va commencer par la communauté de rois. Parce que nous sommes une race élue, un peuple choisi, nous avons accès à ce titre royal d'être appelés des enfants de Dieu, donc enfants du roi des rois. Ça veut dire, puisque nous sommes des rois et des reines, que nous faisons tout ce que nous voulons, puis nous agissons comme les rois et les reines de ce monde. Mais nous avons ce titre, ce privilège que Dieu nous a donné d'avoir accès directement devant son trône, parce que nous sommes appelés ses enfants. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Nous ne sommes pas juste des serviteurs où on leur dit de ce qu'il faut faire, puis on fait juste d'obéir. On a accès au Père. Quelles que soient nos demandes, il nous écoute et il nous répond, comme on a prié tout à l'heure. On a pu voir depuis quelques jours comment que les prières qu'on a priées depuis un bon moment ont été exaucées. On voit le pasteur Nathan, on a prié aussi pour ma sœur qui avait des difficultés de revenir au Canada. On a prié pour d'autres personnes qui étaient malades et qu'on a vu comment que Dieu a guéri, a Dieu restauré. On a ce privilège d'être ceux qui côtoient le roi des rois. Donc, on peut se tenir librement devant le Seigneur des Seigneurs à chaque jour. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir cela? Mais le roi était aussi un représentant de Dieu sur terre, en tout cas du temps d'Israël. En tant qu'église locale, nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. En tant que race élue de roi-prêtre, nous avons ce mandat de démontrer qu'est-ce que ça veut dire d'être une race élue, qu'est-ce que ça veut dire d'être roi-prêtre. Pas pour nous glorifier, pas pour nous montrer que nous sommes meilleurs que les autres, mais quelle a été la conséquence de ce titre que Dieu nous a donné, de cette race élue, de pouvoir être appelé des rois-prêtres pour le Seigneur. Et lorsque nous rencontrons en tant qu'Église locale, nous agissons de cette façon, en représentant Dieu par nos rassemblements, par nos attitudes, nos paroles et nos actions. Comme on l'a fait ce matin pour louer le nom du Seigneur, comme on l'a fait par nos prières. Nous agissons en tant que roi, nous représentons le Seigneur. Ensuite, il est dit aussi une communauté de prêtres. Donc, le prêtre était la personne désignée pour accomplir un sacrifice devant Dieu. On le voit tout au long de l'Ancien Testament, comment qu'il y a tout un rituel pour la demande de pardon, pour l'holocauste d'action de grâce, de reconnaissance. Et tout cela se faisait pour que le peuple puisse être saint, puisse être pardonné, pour que le peuple se conforme aux règles et aux lois données par Dieu. Mais avant tout, le prêtre avait besoin, avant d'apporter le sacrifice, par exemple, pour une personne, de se préparer lui-même. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il mette les habits de prêtre qui étaient spécifiques. Il fallait qu'il se lave, qu'il se purifie, afin qu'il soit saint avant d'entrer dans la présence de Dieu. Rappelez-vous, justement, tout au début, quand ils étaient encore dans le désert, quand Moïse a instauré, justement, le culte, il a instauré que la tribu de Lévi allait être, justement, les représentants, les prêtres devant Dieu pour le peuple. Et les filles, l'Aaron et les fils étaient, justement, les prêtres. Mais on sait qu'à un moment donné, deux des fils ont fait quelque chose qui était ignoble. Ils ont pris un feu étranger. Donc, ils ne sont pas venus d'une façon sainte devant le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel les a directement anéantis. Ils ont été comme brûlés sur le feu. Alors, peut-être c'est vrai que c'est un peu sévère, mais ils avaient des règles précises. Ils savaient qu'ils devaient venir en tant qu'un saint purifié. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils ont eu la conséquence de leur péché. Donc, il fallait que les prêtres désignés pour le peuple d'Israël soient des exemples, des modèles de pureté, de démontrer qu'ils observaient la loi et craignaient réellement Dieu. Alors aujourd'hui, si nous sommes des prêtres qui offrent des sacrifices spirituels qui sont acceptés favorablement par notre Seigneur Jésus-Christ, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire des sacrifices spirituels. Mais on le voit dans l'exemple de Pierre. Ce prêtre offre à Dieu sa vie, son adoration à travers des sacrifices de louange, c'est-à-dire d'offrir comme seuls les prêtres pouvaient le faire, des sacrifices, des actions de louange, de reconnaissance pour ce privilège d'avoir accès à cette place d'honneur de servir Dieu à tous les jours. Donc ce terme ensemble de communauté de rois prêtres veut dire que nous sommes en même temps rois avec les privilèges que ça peut comporter d'être le représentant de Dieu sur terre, tout en étant prêtre pour servir, honorer Dieu dans tout ce qu'il nous a donné de faire. Dans tout ce privilège que nous avons accès à Dieu, nous avons aussi cette responsabilité de le servir et de l'honorer par nos sacrifices, nos paroles, nos actes et notre témoignage. Le troisième bout de phrase qu'on voit, c'est une nation sainte. Le commentateur MacDonald dit, par rapport à cette phrase, « Dieu voulait qu'Israël soit une nation qui se distingue par sa sainteté, mais les Israélites cédèrent aux pratiques pécheresses de leurs voisins païens. Ainsi, Israël fut mis temporairement de côté, et maintenant l'Église constitue la nation sainte de Dieu. » Donc, des hommes et des femmes saints, pas juste devant Dieu, mais quels que soient nos passés, quel que soit ce que nous avons fait avant, le fait que nous sommes régénérés, transformés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, nous devenons des hommes et des femmes saints, qui sont acceptés de se présenter devant le trône du roi des rois sans être anéantis, sans être mis de côté. Le Seigneur veut que cette sainteté se développe, se concrétise à chaque jour dans notre vie, dans nos agissements. Et voilà pourquoi que Jésus a placé dans l'Église locale pour justement être ce peuple saint, pour que ce peuple qui démontre tout par ses agissements, par ses paroles, par ses actes, qu'il a compris sa mission. La mission, c'est justement d'adorer Dieu, d'être juste devant le Seigneur, de transmettre sa parole aux autres. Et c'est tout ensemble, en tant qu'Église locale, que nous allons expérimenter toute la beauté d'être des rois prêtres et tout ce qui va se découler comme bienfait, d'être ensemble comme une famille. Le quatrième bout de phrase que nous voyons, il est dit « Un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses. » Nous n'avons pas fait quelque chose de plus grand ou de plus de mérite que les autres de recevoir ce titre de privilège. C'est seulement par la grâce et la bonté de Dieu qui nous a libérés justement du péché pour nous permettre de vivre une nouvelle vie. Tout cela, nous savons que nous l'avons fait lorsque nous avons mis notre confiance et notre foi en Jésus-Christ. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser toute la chance que nous avons, tout le cadeau que Dieu nous a offert d'être justement ce peuple que Dieu a libéré. Lorsqu'on comprend justement toute cette identité que nous sommes en Christ, alors on ne peut que le louer et le remercier à toujours. Et ce n'est pas juste le dimanche matin, avec des temps de louange ou de célébration, mais à tous les jours, là où nous sommes, en prière, en louange, au travail, avec des amis, des frères et sœurs, avec des chants de louange, des psaumes de reconnaissance, des prières d'action de grâce, qui nous permettent justement de dire oui, on veut célébrer bien haut les œuvres merveilleuses que le Seigneur nous a faites. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement par nos bouches, mais surtout par notre manière de vivre dans la société, comment on se comporte aussi devant les autres. Et la suite du verset 9 nous le dit bien, quand nous sommes cette race élue, nous sommes cette communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré, tout cela est dans le but de, si vous regardez la suite du verset 10, vous célébrez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voilà le but de l'Église locale. C'est qu'ensemble, malgré nos imperfections, nos manquements, nous puissions célébrer ensemble ce que Dieu a fait dans chacun de notre propre vie, qui nous a pardonné et lavé nos péchés de notre ancienne vie, qui nous donne la vie et la lumière pour l'éternité. N'est-ce pas ça merveilleux de savoir que ce mandat nous est donné en tant que chrétiens pour pouvoir rayonner de cette lumière autour de nous? Alors, prochain dia, concrètement, comment le faire dans l'Église locale? Comment être cette race élue? Comment devenir cette communauté de rois prêtres, cette nation sainte, ce peuple qui a été libéré pour célébrer justement les bienfaits de Dieu? Justement, on se rassemble parce que nous avons quelque chose en commun, d'avoir été libérés du pouvoir du péché par le sang de Jésus-Christ, et qu'ensemble, on peut se retrouver pour célébrer ce que Dieu a fait en nous. L'Église locale permet de mettre en pratique ce verset de verset 9 de 1 Pierre 2. Parce que sinon, Ça pourrait être un bel exemple, mais qu'on ne le vit pas concrètement. Et c'est vrai que c'est difficile d'être cette communauté, d'être ce peuple qui loue le bienfait de Dieu, si on ne se réunit pas. Si nous ne sommes pas ensemble concrètement, physiquement, en tant qu'église locale, si on n'avait pas vraiment de lien réel entre nous, ce serait difficile justement d'être, de dire « Ah oui, nous sommes cette race élue, nous sommes cette communauté de droit prête, si nous sommes tout seuls chez nous. » Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes une communauté, c'est-à-dire des gens de différents horizons que Dieu a placés ensemble parce que nous aimons Jésus-Christ et nous voulons le servir. Voilà pourquoi que nous sommes ces représentants de Dieu sur terre comme roi. Oui, on a tous les privilèges justement d'être appelés des enfants, des fils et des filles du roi bien-aimé. Par nos agissements, par nos actes, nous représentons Dieu et nous devons l'honorer comme un prêtre afin que nos sacrifices spirituels puisse plaire à notre Seigneur. Alors, dans l'Église locale, justement, nous allons mettre en pratique ces sacrifices spirituels comme prêtres. Et on va regarder, justement, qu'est-ce que ça veut dire. Ouvrons notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Juste quelques versets auparavant. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Et voici ce qu'il dit, Pierre. « Et puisque vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. » Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Alors regardons justement, quels sont ces sacrifices spirituels? Je suis allé regarder un peu des notes, un peu à gauche, à droite, et j'ai trouvé des commentateurs de ce commentateur biblique, McDonald, que je trouvais intéressant. Voici, il donne plusieurs points, quels sont ces sacrifices spirituels? Le premier, il dit, c'est la présentation de leur corps. Un sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu. Donc, il s'agit d'un acte d'adoration. Et Romains chapitre 12, verset 1, vous pouvez le noter, Romains chapitre 12, verset 1, qui dit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, votre part, un culte spirituel. » Donc, nous présentons, lorsque nous sommes en tant qu'église locale, lorsqu'on se présente devant Dieu, lorsque nous sommes réunis ensemble, comme une présentation de notre corps qui est vivant, qu'on veut adorer Dieu, pas juste par nos langues, mais par notre corps tout entier. On veut être accepté devant Dieu. On veut que tout ce que nous sommes puisse vraiment respirer et louer le nom du Seigneur. Le deuxième point, c'est le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Lorsqu'on se réunit ensemble, on prend ce temps d'adorer Dieu à travers des chants. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, verset 15 qui dit « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. » On se réunit justement parce qu'on est dans la joie de faire partie de cette famille, de cette communauté. Et on veut, comme un prêtre aussi, offrir des sacrifices de louange, d'adoration à notre Seigneur. Le troisième point que nous voyons, c'est le sacrifice des œuvres bonnes. N'oubliez pas la bienfaisance. Ce sacrifice est agréable aussi à Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 16, qui dit « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà le sacrifice auquel Dieu prend plaisir. » Voilà le sacrifice, les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Dieu nous demande aussi, justement, en tant qu'Église locale, de pouvoir démontrer par des actions les œuvres bonnes du Seigneur. Comme on l'a vu tout à l'heure, on doit donner, puisque Dieu nous a libérés, on doit pouvoir offrir à Dieu, offrir aux autres les œuvres bonnes que Dieu veut que nous puissions faire. Le quatrième point, le sacrifice des biens et de l'argent. N'oubliez pas la libéralité. Ce sacrifice est également agréable au Seigneur. On le voit aussi dans Hébreux chapitre 13, verset 16. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Donc, Dieu nous demande aussi de pouvoir être capable de nous donner pour les autres, pour pouvoir justement démontrer que nous sommes partie de cette communauté en faisant des œuvres bonnes, en faisant quelque chose qui est agréable pour le Seigneur, qui démontre Dieu. Mais nous avons aussi besoin de démontrer par notre argent aussi que nous voulons aussi offrir. Et c'est vrai que des fois, par notre argent, c'est plus difficile parce qu'on le gagne pour pouvoir vivre. Mais Dieu nous demande d'être des intendants de ce que Dieu nous donne, pouvoir dire « libère-toi, sois justement cette personne généreuse, Sois cette personne qui peut vraiment, en toute libéralité, donner au Seigneur, donner à des personnes qui vivent des moments difficiles, à un frère et une sœur qui passe quelque chose de difficile, qui passe par la maladie ou qui a besoin un peu des finances, qui a perdu son travail. Sois généreuse aussi avec elle. Si nous sommes généreux de ce cœur, c'est un sacrifice de louange, d'adoration que nous faisons pour le Seigneur. Et le cinquième point qu'il donnait, le sacrifice du service. Paul parle de son ministère auprès des païens comme d'une offrande agréable à Dieu. Romains chapitre 15, verset 16 qui dit « En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre en annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu consacrée par l'Esprit-Saint. » En tant que famille, communauté de rois prêtres, nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle se fait à travers l'Église locale. On peut expérimenter de comment louer Dieu tous ensemble. On peut le louer justement à travers le service que l'on offre pour Dieu vers les autres. C'est dans l'Église locale que nous allons pouvoir le servir, démontrer par des preuves que nous sommes justement cette race élue, que nous sommes cette communauté de rois prêtres. Voilà pourquoi il a voulu que les apôtres puissent démarrer l'Église. Voilà pourquoi que justement, il a permis que à travers la Pentecôte, que des milliers de personnes se convertissent et que l'Église commence. Et 2000 ans plus tard, l'Église continue, même s'il y a eu des imperfections, même s'il y a eu des soubresauts, même s'il y a eu beaucoup de persécutions, l'Église continue de se réunir pour pouvoir être ce témoignage vers les autres, ce témoignage d'adoration aussi envers Dieu et aussi envers la communauté avoisinante. Alors pour terminer, vous savez que nous avons quatre valeurs essentielles dans notre Église. Et la deuxième valeur, c'est un lieu de famille. Donc, et notre énoncé de mission, qui est un peu une phrase courte, qui dit exactement ce que nous voulons faire comme mission en tant qu'Église. Donc, la phrase, c'est « être une Église accueillante et dynamique pour encourager chacun à rencontrer Dieu et approfondir une relation saine avec Jésus-Christ, tout en étant un témoignage d'amour et d'impact auprès de la communauté. » Dans cette phrase-là, nous retrouvons nos quatre valeurs. Le refuge, être une Église accueillante. On retrouve d'être une famille, encourager chacun à rencontrer Dieu, approfondir une relation saine avec Jésus-Christ. On voit aussi ce lieu de valorisation. Tout un témoignage d'amour et d'impact, c'est aussi ce lieu de partage. Cet esprit de famille va se faire seulement si nous le désirons. Ça dépend de chacun de nous, de la façon que nous allons pratiquer, de la façon que nous allons nous donner aux autres autour de nous. Si on accepte de tout donner à Christ, notre vie entière, notre façon de penser, d'agir envers notre propre famille, envers le prochain, envers l'argent, les possessions que nous avons, alors Jésus va pouvoir nous utiliser pour son royaume et vivre des bénédictions qu'il a prévues pour nous et d'avoir un impact autour de nous. Dans la famille de Dieu, on grandit, non pas à cause du nombre d'années que nous sommes chrétiens, mais parce que nous sommes prêts à laisser Jésus-Christ nous transformer notre vie. On ne peut pas vraiment grandir en tant que chrétien tout seul chez nous, juste en écoutant des prédications sur Internet ou d'aller écouter la louange par des CD, mais en travers se côtoyer dans l'Église. On est des frères et des sœurs qui ont besoin de se côtoyer pour pouvoir apprendre à être transformés, apprendre à ce que ça veut dire d'être une communauté de rois prêtres, une communauté, vraiment une famille. Parce que si nous sommes seuls à la maison, c'est difficile justement de pratiquer ce lien d'appartenance au Seigneur. Alors, on doit justement pratiquer ce lien familial en se côtoyant, en restant proche. On sait que dans la famille physique, justement, quand les enfants grandissent, après un moment donné, ils quittent la maison et des fois ce lien se perd. Je vois tellement de familles qui, aujourd'hui, ils voient peut-être une fois par année à Noël ou dans les fêtes, peut-être leurs parents ou leurs enfants. Mais en tant que famille du Christ, ensemble, on se côtoie régulièrement pour pouvoir grandir, progresser. Si on se voit juste une fois par année, c'est difficile d'avancer avec le Seigneur. C'est difficile de proclamer qui est le Seigneur et toutes les bontés que Dieu nous fait aussi à travers nous. Donc, ce lien d'appartenance va se développer, pas juste le dimanche, lors des cultes ou des activités, mais en tout moment. On a besoin des uns des autres. On a besoin aussi de vivre cette sécurité en famille. On a besoin de savoir que nos frères et sœurs sont là sur qui on peut compter, qui ne vont pas nous trahir, qui ne vont pas nous lâcher à la première difficulté. Et combien de fois on a pu voir, expérimenter, combien qu'on avait un besoin ou qu'on avait un souci, on a pu prier pour la personne, on était encouragé, comment que le Seigneur a pu permettre aussi qu'on puisse être visité, qu'on puisse encourager la personne pour avancer. On a besoin de savoir que nous sommes en sécurité et que les membres de cette famille du Christ vont nous protéger contre l'ennemi qui rôde autour de nous, qui vont nous aider à grandir dans la connaissance, dans la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui vont nous aider physiquement ou matériellement lorsqu'on a des besoins ou des soucis. L'autre point que nous devons aussi, de vivre cette vie en tant que famille pour nous encourager. C'est important de développer ce lien en dehors même des activités de l'Église. Que ce soit par des téléphones durant la semaine pour se parler, prier ensemble, de prendre un café ensemble pour mieux se connaître. Et c'est vrai que peut-être avec la pandémie, on a vu au début comment que on a eu ce lien d'appartenance où on priait les uns pour les autres, on s'encourageait, on s'envoyait des courriels, des téléphones pour voir comment on allait. Mais maintenant qu'on est revenu à peu près à la normale, même s'il y a des difficultés, on voit que peut-être on a perdu ce lien aussi de pouvoir se parler, se téléphoner, juste pour voir comment ça va, juste pour simplement dire, ben, j'aimerais savoir comment tu vas cette semaine, je t'ai pas vu au culte de la semaine passée, est-ce que ça va bien, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu as besoin d'un sujet de prière, etc. D'aller rendre visite à une personne qui peut difficilement se déplacer, d'aider une sœur ou un frère qui déménage par exemple, qui a un besoin spécifique d'aller l'aider, d'inviter un frère, une sœur à manger. Je vois quand même qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile de nous inviter. C'est vrai qu'on est dans une société qui nous bouscule, on a tellement de choses à faire. On n'a plus le temps même de s'inviter aussi, de pouvoir manger, de prendre un café ensemble, de pouvoir s'écouter, s'encourager. Si nous pratiquons et développons ce lien d'appartenance à la famille de Dieu, comme faisait l'Église primitive, alors les gens autour de nous vont voir ce qui se passe, vont voir les bienfaits de Dieu, vont voir la puissance de Dieu se manifester et seront intéressés à venir aussi parmi nous. Alors, est-ce que nous allons redécouvrir l'Église comme une famille dans ces prochains mois, surtout dans les derniers mois que nous vivons? Nous savons que c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait beau, ou bien peut-être qu'il a grande chaleur encore, mais on arrive dans les temps froids où c'est plus difficile de sortir. On arrive dans les temps des fêtes aussi. On a besoin encore de redécouvrir qu'est-ce que c'est l'Église locale, d'être capable de s'encourager, d'être capable de fraterniser, d'être capable de louer le nom du Seigneur ensemble, d'être capable, comme le dimanche, comme à d'autres activités, de se rassembler pour louer le nom du Seigneur. Alors simplement courbons notre tête, parce que nous allons prendre quelques instants la Sainte Cène, le repas du Seigneur, qui est pas juste un symbole, qui est plus qu'un symbole, qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. Il l'a fait pour nous donner, pour nous faire partie de cette famille de Dieu, nous faire partie de ce peuple de Dieu. Lui, le Fils de Dieu, a accepté de mourir pour nos péchés, pour que par un seul sacrifice, mais un sacrifice qui était ultime sur la croix, lui, le Fils de Dieu, est mort pour nous donner la vie. Alors que ce matin, lorsque nous allons prendre ce repas, que nous puissions remercier Dieu, que nous puissions remercier le Seigneur d'avoir cette opportunité encore aujourd'hui de faire partie de ce peuple de Dieu. De remercier le Seigneur que nous sommes cette communauté de rois-prêtres qui sont là pour représenter Dieu, que nous avons ces privilèges d'être devant Dieu, que les Juifs, c'était juste les prêtres qui pouvaient se présenter devant le temple. Nous avons ce privilège aujourd'hui, jour après jour, à chaque instant, de se présenter devant Dieu, d'être écoutés par lui. Nous avons cette communauté de rois-prêtres aussi, de pouvoir l'adorer, le louer, à travers nos chants, nos adorations, à travers des sacrifices spirituels comme on a vu, à travers aussi nos vies de tous les jours. Nous sommes ce peuple que Dieu a libéré, que Jésus-Christ a libéré à travers ce sacrifice. Alors, lorsque nous allons prendre ce repas, que nous puissions saisir que Jésus veut nous dire, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai sauvé, toi qui étais perdu, toi qui n'étais pas faisant partie du peuple de Dieu, qui était le peuple d'Israël. Je t'ai choisi pour être dans cette race élue. Je t'ai choisi pour faire une vie nouvelle. Je ne te choisis juste pas pour que tu restes à la maison. Je te choisis pour que tu sois mon représentant, que tu puisses, à travers tes paroles, tes actes, ton témoignage resplendir de qui je suis à travers toi. Alors voilà pourquoi que le Seigneur veut nous dire ce matin, quand tu vas prendre ce repas, quand tu vas prendre ce pain qui représente le corps, quand tu vas prendre ce jus qui représente le sang qui a été versé par Jésus-Christ, tu te rappelles que Jésus-Christ a tout fait pour toi, pour qu'il t'a libéré pour te donner une nouvelle vie. Il t'a mis dans une famille nouvelle, l'Église. Il t'a mis dans une Église locale pour que tu puisses le louer, l'adorer, que tu puisses le servir. Alors que nous puissions réellement dire « Oui Seigneur, ce matin, je veux réaliser que tout ce que tu as fait pour moi, tu veux que je puisse maintenant le donner aussi à toi, à travers l'Église locale, que je puisse le donner à travers l'Église locale vers les autres, vers la communauté avoisinante, pour que nous puissions reconnaître que tu es le seul Seigneur, pour que le monde puisse reconnaître que tu es encore ici pour nous donner ta grâce et que tu veux encore nous libérer chacun, les hommes et les femmes, du péché pour qu'ils puissent avoir la vie avec toi. Alors simplement prenons quelques instants de silence à nous préparer chacun de nous et que l'on puisse prendre aussi ce repas comme une action de reconnaissance de grâce que Dieu nous a libérés une fois pour toutes et qu'il veut que nous puissions marcher dans cette sainteté avec lui. Alors prenons quelques instants pour simplement nous préparer. Recevons cette invitation. Si vous repentez sérieusement et sincèrement de vos péchés, si vous vivez dans l'amour et dans la paix avec votre prochain, si vous menez une nouvelle vie en suivant les commandements de Dieu, si vous marchez dans ses saintes voies, si vous vous approchez de lui par la foi, si vous prenez ce Saint-Sacrement pour votre consolation, adressez dans une humble prosternation cette confession honnête au Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur de toutes choses, juge de tous les humains, nous confessons que nous avons péché et que nous sommes profondément attristés en pensant à toutes les choses mauvaises de notre vie passée. Nous avons péché contre toi, ô Dieu Saint, et contre ton amour. Nous ne méritons que ton indignation et ta colère. Nous nous repentons et nous regrettons profondément d'avoir mal agi et de ne pas avoir accompli les actes que nous aurions dû faire. Nos cœurs sont contrits et nous sommes reconnaissants que nous sommes désespérés sans ta grâce. Accorde-nous ta clémence, Père miséricordieux. Pardonne-nous par égard par ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Pardonne-nous et purifie-nous. Donne-nous la force de te servir et te plaire en nouveauté de vie, en t'honorant et en louant ton nom, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne venons pas à la table, ô Seigneur miséricordieux, avec orgueil et suffisance, et en croyant notre propre justice, mais nous comptons sur ta grâce abondante et infinie. Nous ne sommes pas dignes de ramasser les miettes sous ta table. Toi, ô Seigneur, tu ne changes pas dans ta miséricorde parce que tu es amour. Accorde-nous donc, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, de manger à ta table de manière à recevoir en esprit et en vérité le corps de ton cher Fils, Jésus-Christ, de même que les mérites accordés par son sang versé, afin qu'en étant lavé et purifié par son sang précieux, nous puissions vivre et croître à sa ressemblance, nous en lui et lui en nous. Entends-nous, ô Père miséricordieux, quand nous te demandons humblement de nous accorder en prenant ce pain et cette coupe, comme il a ordonné en mémoire de sa passion et de sa mort, de participer à son sang et à son corps très saint. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit en donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, on te remercie pour ce pain qui revient dans ton corps, qui a été brisé pour nous. Toi, le Fils de Dieu, tu as accepté pour que nous puissions faire partie de ce peuple choisi, de ce peuple qui allait recevoir tes grâces et tes bontés, de ce peuple qui allait vivre quelque chose de merveilleux avec toi. Tu as accepté de mourir sur la croix. Tu as été accepté, toi, le Fils de Dieu, qui était sans péché, d'être condamné, d'être jugé, d'être abandonné pour pouvoir nous donner la vie. Nous voulons te remercier pour ce sang qui représente tout le sang qui a été versé, qui coule et qui nous purifie, qui nous lave de nos péchés. Nous te remercions encore parce qu'aujourd'hui, tu continues de nous laver, tu continues de nous purifier. Et tu désires que nous puissions continuer d'être saints en toi, afin que nous puissions être cette communauté de rois prêtres qui t'honorent, qui te louent par nos bouches, par nos actes, par notre témoignage. Que nous puissions être cette église locale qui continue en se rassemblant de t'adorer, te louer d'un seul cœur, qui continue d'être un témoignage, une lumière aussi pour les autres, qui continue de pouvoir bénéficier de ta grâce, de ta puissance. Alors oui, merci. Merci pour ce rappel que tu viens nous le faire avec ce repas. Seigneur, permets que nous puissions réaliser tout le mandat que tu nous donnes en tant que nation sainte, en tant que race choisie, élue, de te représenter, de te plaire en nouveauté de vie, de continuer de te servir à travers l'Église. Alors Seigneur, on te remercie parce que nous savons que tu es grand et tu es bon et qu'en toi seul nous avons la vie. Alors pour terminer, Seigneur, nous voulons donner cette bénédiction pour chacun de nous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos corps et vos esprits dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit pour vous, sur vous maintenant et à jamais. Amen. Amen.